Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
C'est toujours un réel de vous retrouver sur la radio Nzamba Gatikakawe. C'est l'heure du journal de ce mardi 17 octobre 2023. Tout d'abord les titres. Les violations des droits des détenus persistent toujours en grand nombre. Le dernier rapport d'ACAT Burundi fait état de mauvais traitements et de privations, notamment d'accès aux soins de santé ou encore d'une surpopulation de plus de 300%. ACAT Burundi, qui appelle au respect des droits des détenus, suggère la mise en place d'une stratégie de désengorgement des prisons. Le pouvoir doit garantir l'état de droit, c'est un appel de Léonard Nyangoma, ancien compagnon de feu Melchior Ndadaye. Il le dit à quelques jours de la commémoration de l'assassinat du héros de la démocratie qui aura lieu le 21 octobre. Léonard Nyangoma, que vous suivrez également en tant qu'invité. Le niveau déplorable de l'alimentation de la population traduit la pauvreté qui l'assaille. C'est Fossin Dikoumana, expert économiste, qui déplore cet état de fait. Il s'exprime à l'occasion des journées de l'alimentation et de la lutte contre la pauvreté. Vous le suivrez dans ce journal. À toutes, à tous. Bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Ouvrons ce journal par cette brève. Kefani Widzi s'apprête à passer sa première nuit à la prison centrale de Mimba. Le président du parti Kotebu, pourtant proche du pouvoir, a été arrêté ce mardi après avoir été auditionné par le procureur général de la République. Il serait poursuivi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. On n'en sait pas plus pour l'instant. Les cas de violation des droits des prisonniers au cours des mois de juillet, août et septembre sont toujours aussi nombreux. C'est le constat amer fait par l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture à ACAT Burundi. Dans son rapport produit pour cette période, l'organisation relève notamment des cas de traitement inhumain, des cas de violation du droit à la santé, à l'alimentation et bien d'autres problèmes liés à la surpopulation carcérale. La plupart de ces cas de violation ont été constatés surtout dans les prisons de Gitega, Muyinga et Muramvya, comme le dit ici Jean-Claude Nyurumunsi, chargé du département juridique au sein d'ACAT Burundi. Suivez.
En ce qui concerne les traitements inhumains, ces violations ont été constatées beaucoup plus dans les prisons de Muyinga et dans la prison de Gitega. Dans la prison de Muyinga, c'est le directeur même de la prison qui s'est rendu responsable de cette violation en malmenant la journaliste Froliane Irangabie, ainsi que ses co-détenus, victimes de leur soutien à Froyan Irangabie, qui était malmené par la direction. Et dans la prison de Gitega, on a aussi constaté qu'un certain capitaine général, c'est-à-dire le responsable des détenus au niveau de la prison, il sanctionne qui il veut, comme il veut. Les prisonniers politiques sont beaucoup plus dans son viseur. On a constaté aussi des cas de violation, de traitement inhumain dans la prison de Muramvya, des membres, des prisonniers, mais membres du parti au pouvoir, au sein de l'FDD, propagent des propos haineux dans la prison sur base ethnique. Ils se considèrent comme des gens qui sont au-dessus de la loi et personne ne peut les toucher étant donné qu'ils sont des membres du parti au pouvoir des Imbonerakure. On a aussi constaté de l'insuffisance alimentaire dans les différents établissements pénitentiaires, surtout cette pénurie s'est observée dans les mois de juillet et août. Mais aussi, on a documenté des vols de vivres destinés aux prisonniers par les responsables des cellules dans les prisons. Ces cas ont été documentés dans la prison de Bobanza. On a constaté un vol péré et organisé et systématique. Nous avons aussi constaté qu'il y a un problème de soins de santé et c'est un problème qui est récurrent. Nous avons constaté que les soins qui sont indisponibles dans les prisons, les prisonniers n'y ont pas accès. Surtout que les sorties deviennent beaucoup plus difficiles et surtout lorsqu'il s'agit des prisonniers qui sont accusés des infractions à caractère politique. Nous avons aussi constaté une surpopulation carcérale cette période, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre. Les prisons étaient à peu près de 12 933 détenus alors qu'elles ont une capacité d'accueil de 4 294.
La CAT Burundi appelle le gouvernement à faire respecter les droits des prisonniers et à mettre en place une politique claire de désengorgement des prisons. Encore une fois, Jean-Claude Niburumosi.
Nous recommandons au ministère de la Justice qui est en charge des prisons de pouvoir faire respecter la loi sur le régime pénitentiaire et punir sérieusement et sévèrement ceux qui se rendent responsables des violations des droits des prisonniers. Permettre à ce que les détenus puissent avoir accès aux soins de santé afin d'éviter qu'il y ait encore plus de morts. Le droit à l'alimentation, éviter aussi qu'il y ait vol des denrées alimentaires. Garder l'œil sur la gestion des stocks afin d'éviter qu'il y ait des ruptures de stock des denrées alimentaires. Et nous demandons à ce qu'il y ait aussi une politique claire de désengorgement des prisons, parce que nous constatons que même s'il y a un petit nombre de détenus qui sortent de la prison, il y a un grand nombre qui entrent. Donc ça ne change rien si le ministère en charge de la justice ne met pas en place une politique claire afin d'éviter que les prisons qui sont déjà peuplées puissent avoir un nombre significatif de réduction des détenus dans les prisons.
Comme annoncé dans l'édition d'hier, le 21 octobre, le Burundi va commémorer le 30e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. 30 ans après, les dirigeants burundais manquent toujours la culture démocratique. Ils parlent de la démocratie, mais ne traduisent pas leurs paroles en actes. C'est la lecture de Léona Nyangoma, ancien compagnon de feu Melchior Ndadaye. Léona Nyangoma appelle les dirigeants à garantir l'état de droit. Suivez.
La démocratie pour laquelle nous avons lutté à côté de Ndadaye a trop reculé. Donc après Arusha, on a remarqué quand même qu'il y avait une grande détente, un rapprochement entre les différentes composantes sociales qui avaient coexisté dans l'antagonisme parfois meurtrier à plusieurs occasions. Il y a plusieurs événements cycliques, comme vous le savez, qui ont endeuillé le monde. Malgré qu'il y ait un leader, Ndadaye Melchior, qui est mort pour la démocratie, c'est quelqu'un qui avait une très grande vision, il voyait très très loin, c'est quelqu'un qui était d'une grande formation politique et très poussée, c'est quelqu'un qui était contre l'injustice, il en a même souffert parce que en 88, après les événements de Kamarangara, il a été arrêté, passé en prison, d'abord à la sûreté, ensuite à Rumonge, puis il a fait 3 mois, pour avoir dit la vérité, rien que la vérité, pendant une réunion du parti, que cela a été autorisé, c'était autorisé. Quand nous avons gagné les élections, il a immédiatement libéré les prisons, il a libéré tous les prisonniers politiques. C'est pour cela que je demande encore au président Évariste de libérer tous les prisonniers politiques sans condition. Ndadaye, il a fermé les cachots de la sûreté du service de renseignement. Le service de renseignement n'est pas fait pour torturer, arrêter les gens emprisonnés. Il y a d'autres services police normalement qui sont chargés de ça. On les a fermés. Sur mon conseil également, la prison de Kirundo a été transformée en une école secondaire. Alors, je leur demanderai de réhabiliter l'accord d'Arusha et d'engager le dialogue avec ses opposants. On n'est pas vraiment pour chasser les opposants parce que c'est de la contradiction que naissent les solutions en principe.
Léona Nyangoma sera notre invité en fin de journal.
Inzamba.
La journée mondiale dédiée à l'alimentation et celle de lutte contre la pauvreté arrive au moment où le Burundi est dans une situation économique très alarmante. C'est ce que déplore Faustin Dikoumana, expert économiste. Faustin Dikoumana se base sur plusieurs indicateurs, dont le faible produit intérieur brut et la pauvreté qui menace la population. Écoutez Faustin Dikoumana.
Pour faire cette évaluation, alors on commence à évaluer les indicateurs. Un PIB par habitant de 300 dollars, c'est le dernier du monde. L'avant-dernier, c'est la Sierra Leone. La Sierra Leone a un PIB par habitant de 400 dollars. C'est déjà une différence de 100 dollars. Nous avons un taux de croissance inférieur à 2%, alors que le taux de croissance de la population est à 3%. Le seuil de pauvreté, c'est à plus de 70%. L'insécurité alimentaire frappe 2 Burundais sur 3. La malnutrition infantile est à plus de 50%. Nous avons un endettement public de plus de 70% du PIB. c'est rarement. Une balance commerciale est lourdement déficitaire. 80% déficit. Plus. Réserve de charge de 200 mètres, alors que la normale était de bébés de 5-6 mois. L'engagement sont largement supérieurs aux avoirs en devise détenus par la Banque centrale à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Une dépréciation monétaire qui continue. Une inflation de 30% qui est tente. Si on analyse les conditions physiques de la pauvreté, il faut analyser les infrastructures, l'état de nos routes, les bâtiments, les ponts, l'aéroport, l'équipement dans les écoles, dans les hôpitaux. Ne pas posséder par exemple un avion digne de son nom, l'énergie. Vous voyez la crise de l'eau, de l'électricité, du carburant. Au niveau de la communication, et la situation de notre débit en Internet liée à la couverture du fibre optique, de la fibre optique. Mais malheureusement, le Burundi dispose d'un potentiel agricole, minier, touristique, avec sa production de plateforme dans la sous-région qui devrait lui permettre de décorer économiquement.
Toujours selon lui, le Burundi ne peut pas s'en sortir tant qu'il y a une mauvaise planification et la corruption qui gangrène les institutions. Encore une fois, ce sont des Koumana.
Alors, comment évaluer l'action gouvernementale dans la lutte contre la pauvreté? 10 indicateurs nous permettent d'évaluer l'état de l'action gouvernementale dans le combat contre la pauvreté. D'abord, on ne fait pas parler de lutte contre la pauvreté sans qu'il y ait un service de planification gouvernementale digne de son nom. La planification a complètement disparu. Au sein du ministère des Finances, il n'est pas perceptible. Au sein du ministère de l'Intérieur, il n'est pas perceptible. Comment développer un pays comme le Burundi sans un ministère, sans un service respectable de la planification stratégique et opérationnelle? Maintenant, on dit, la régie des eaux, la planification n'a pas anticipé au niveau de la croissance démographique en mairie de Bujumbura par rapport aux besoins en consommation en eau et en. Alors qu'on a élaboré des CCRP dans le passé, ça c'est inimaginable. Deuxièmement, l'état de la gouvernance budgétaire. Une gouvernance budgétaire, comment le budget devrait être élaboré? Manque de transparence, manque de contrôle, manque de participation du public, cela ouvre le lit à toute mauvaise gestion des finances publiques, l'indiscipline dans la gestion des finances publiques, la priorisation inopportune et inadéquate, la corruption qui n'est pas combattue avec des mécanismes standards et cohérents, le manque de stratégie de mobilisation des ressources en devise. Comment est-ce qu'on peut développer un pays sans stratégie de mobilisation des ressources en devise? Avec deux semaines de réserve de change. Est-ce qu'on peut avoir un programme aussi ambitieux avec deux semaines de réserve de change? Il faut inverser la tendance. Il faut la stratégie. Comment promouvoir les exportations? Quelle est la politique actuelle du gouvernement de promouvoir les exportations? De soutenir les exportations? Comment évaluer le résultat de ce sujet? Comment est-ce que le gouvernement mobilise les aides publiques au développement? Dans le budget, on a parlé de 929 milliards. D'aide, mais on est à une crise en devise. Comment est-ce que le gouvernement est en train de concevoir la stratégie pour mobiliser ces finances?
Place à l'invité du journal.
Place maintenant à l'invité du journal, Léonard Nyangoma. Il répond aux questions de Jean-Marie Ndabashinze.
Honorable Léonard Nyangoma, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été toujours considéré comme un des plus proches du président Melchior Ndadaye en 1993, lors de la victoire de votre parti, le FRODEBU. Quand est-ce que vous avez rencontré pour la première fois le président Ndadaye et c'était dans quel contexte?
Le président Ndadaye, on s'est connu quand nous étions tous encore jeunes, mais déjà quand même adultes mûrs. On avait Ndadaye, quand je l'ai rencontré en 1988, il avait 35 ans et moi j'avais 36, vous comprenez que nous étions encore jeunes, Mais nous sommes rencontrés sur beaucoup de choses. Même avant qu'on se rencontre, on lisait les publications que Ndadaye faisait, la création de la team des jeunes un mouvement affilié au MEPROVA, mouvement progressiste des Burundi. Nous étions nombreux au sein de ce mouvement de la GLR à cette époque. C'est à cette époque même de la GLR qu'on peut pour voir Ndadaye, Melchior et autres militants progressistes qui étaient en exil. Quand nous sommes rencontrés, nous convergions sur des idées. On a constaté que le Burundi a traversé des crises très graves depuis qu'il a accédé à l'indépendance. Et nous pensions que tous notre rêve, c'était de corriger et d'arrêter vraiment ces crises qui débouchaient toujours sur des crises massives depuis les années 65 jusqu'à cette époque où nous sommes rencontrés.
Certaines informations ont circulé que lors du choix du candidat Ndadaye pour représenter le Frodebu à l'élection présidentielle, vous étiez son challenger et il a l'emporté seulement avec une voix de plus sur vous. Et c'est vrai ou faux?
Ce n'est pas le seul mensonge qu'ils ont développé pour opposer Ndadaye et Nyangoma. Le jour de la désignation d'Ndadaye comme le candidat donc à la présidence aux élections présidentielles, c'est Ntibantunganya et moi-même qui avions fait le discours, prononcé le discours de plébiscite. Il a été plébiscité, donc il n'y a même pas eu des élections parce que c'était un candidat naturel, donc pas vraiment de chance. L'autre mensonge, c'est celui quand je suis allé avec Ndadaye, le président, ses parents, son papa et sa maman, avec sa femme aussi, sommes montés chez moi sur la colline. Je lui avais promis une vache. Il avait demandé à mon père de qu'on puisse lui accorder une vache. Puis après, nous sommes rentrés à Bujumbura. Qu'est-ce que j'apprends au retour? J'apprends au retour que Ndadaye et Nyangoma sont montés chez le père de papa de Nyangoma. Puis après, ils ont bu beaucoup et puis ils se sont battus en cours de route. Voilà d'autres mensonges décousus auxquels il ne faut pas croire. Il y a des gens qui ont cru qu'il y a eu des compétitions lors de la désignation du candidat au présidentiel de 93 du Frodebu.
Le 21 octobre 1993, il paraîtrait que le nom de Léonard Nyangoma figurait sur la liste des personnes qui devraient être exécutées. Comment avez-vous échappé au honorable Nyangoma?
C'est vraiment par miracle. J'ai entendu le téléphone sonner quand j'ai décroché le téléphone. C'était Ntibantunganya qui m'appelait et il m'a dit que le coup d'État était en cours, qu'il fallait trouver refuge quelque part. Et moi, à ce moment, j'ai coopéré à gauche et à droite, les gouverneurs, j'ai appelé mon grand-père, le docteur Manayojan. Il était à Kigali pour leur demander de s'adresser à la communauté internationale pour qu'elle puisse intervenir. Voilà tout ça. Après, j'ai entendu le bruit d'une voiture qui est arrivée chez moi. Heureusement, finalement, après c'est Général de Gracias, un frère de Jean-Marie Général qui était ministre de la Communication. Il m'a demandé, vous êtes encore là? Ah, on va vous arrêter. On va vous massacrer. Il y avait ma femme, mes enfants, ma nièce, le travailleur et les travailleuses, et il y avait une femme travailleuse aussi à la maison. Alors, Général nous a dit, embarquez dans ma voiture. Il nous a embarqué dans sa voiture et nous avons rejoint son domicile. Un peu plus tard, j'apprends de Vitalio Rafael qui habitait en face de moi. C'était mon voisin. Il m'informa que, aussitôt après notre départ, 5 minutes après notre départ de la maison, du domicile, les militaires ont débarqué avec leur camion, je m'en fous. Ils ont sauté la clôture et ils sont entrés dans la maison. Et mes travailleurs étaient cachés derrière une maisonnette qui hébergeait les poules. J'étais le berger de poules. Les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bu la bière, les liqueurs qui étaient dans les armoires et tout ça. Une fois arrivé chez Deo, d'ailleurs Jean-Marie aussi nous a rejoint finalement là-bas. À tout moment, on entendait, à chaque instant, on entendait les bruits des blessures. des jeeps pleins, remplis de militaires qui passaient devant la clôture de Yendahayo. Puis, en même temps, Yendahayo Jean-Marie, ministre de la Communication, communiquait avec l'extérieur, principalement avec le ministre de la Défense, Naki Charles, à un moment donné l'idée à Jean-Marie que finalement, les militaires loyaux prennent le dessus. Alors, nous avons cru que le coup d'État était déjoué, donc, et Ndendaye a voulu faire, donc, un communiqué, aller à la radio et déclarer que le coup d'État était déjoué. Bon, Naki Charles lui a dit, là, pour avoir une jeep qui vous permettra d'arriver à la station de la radio à RTNB, faut vous adresser à chef d'état-major de Bikoma. Jean-Marie a appelé Bikoma, Bikoma lui a demandé, où est-ce que vous vous trouvez? Bon, il a dit, bon, nous nous trouvons chez Ndendaye Deo. Bon, à ce moment, quand même, j'ai un peu paniqué. Il dit quand même, il vient de dévoiler l'endroit. À ce moment-là, nous avons pris la décision de quitter, d'aller à Kamenge.
Revenons sur la date fatidique du 21 octobre 1993, dans le livre de Gratien Rukinikiza, qui était l'officier de sécurité du président Ndadaye. Il écrit qu'il y avait un malaise au sein du FRODEU et que vous, en personne, vous avez échangé des mots lourds avec le président Ndadaye au Conseil des ministres du 20 octobre, juste la veille de son assassinat. Votre commentaire, Léonard Nyangoma.
Je ne sais pas quel moment Kiru Kinikiza a posé pour dire qu'il avait un mauvais sein du FRODEU, parce que au FRODEU, justement, nous avons lutté pour la démocratie. La démocratie accepte donc le principe de la contradiction. Il était permis de discuter de manière contradictoire avant d'arriver à un consensus. Et alors, c'est pour cela qu'il y a débat. S'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de démocratie.
Ma dernière question, M. Nyangoma, 30 ans après, comment jugez-vous le niveau atteint par la démocratie propagée par Ndadaye aujourd'hui au Burundi?
Bon, la démocratie pour laquelle nous avons lutté à côté de Ndadaye, je crois qu'elle a fait de recul au Burundi. Pratiquement dans le monde entier, la démocratie recule également face au niveau financier médiatique. Dans le cas du Burundi, la démocratie a trop reculé. Donc après Arusha, on a remarqué quand même qu'il y avait une grande détente, un rapprochement entre les différentes composantes sociales qui avaient coexisté dans l'antagonisme et parfois meurtrier à plusieurs occasions. Il y a plusieurs événements cycliques, comme vous le savez, qui ont endeuillé le monde. Donc la démocratie a reculé énormément. Malgré qu'il y ait un leader, Ndadaye Melchior, qui est mort pour la démocratie, c'est quelqu'un qui avait une très grande vision, il voyait très très loin, c'est quelqu'un qui était d'une grande formation politique et très poussée, qui avait lu beaucoup, c'est quelqu'un qui était contre l'injustice, il en a même souffert parce que en 88, après les événements de Kamarangara, il a été arrêté, passé en prison, d'abord à la sûreté, ensuite à Rumonge. Il a fait 3 mois pour avoir dit la vérité, rien que la vérité, pendant une réunion du parti, que cela a été autorisé, c'était autorisé. Quand nous avons gagné les élections, il a immédiatement libéré les prisons, il a libéré tous les prisonniers politiques. C'est pour cela que je demande encore au président Evariste de libérer tous les prisonniers politiques sans condition. Ndadaye, il a fermé les cachots de la sûreté du service de renseignement. Le service de renseignement n'est pas fait pour torturer, arrêter les gens emprisonnés. Il y a d'autres services police normalement qui sont chargés de ça. On les a fermés. Sur mon conseil également, la prison de Kirundo a été transformée en une école secondaire. Alors, la démocratie a reculé, elle a connu des hauts et des bas. Comme je le disais, elle a trouvé le souffle avec les négociations d'Arusha. Mais malheureusement, l'accord d'Arusha, un document précieux, a été ignoré par le régime au pouvoir à Bujumbura. Aujourd'hui, je trouve que cela est un recul énorme et je leur demanderai de réhabiliter l'accord d'Arusha et d'engager le dialogue avec ces opposants, n'est pas vraiment pour chasser les opposants, parce que c'est de la contradiction que naissent les solutions en principe. Sinon, quand vous empêchez le peuple à s'exprimer, quand vous perturbez la liberté de la presse, à un moment donné, les peuples finissent par se révolter. Je n'ai jamais vu une dictature qui a pu résister à un peuple décidé. D'ailleurs, le président Évariste l'a dit tout récemment, son premier ministre précédemment, l'actuel premier ministre, l'avait dit, si vous continuez ce comportement, un jour le peuple va se soulever, va nous mettre à la porte. Et nous avons beaucoup d'atouts.
Merci, monsieur Léonard Nyangoma, pour avoir accordé une interview à la radio Inzamba.
Merci, merci encore une fois. M'avoir invité, m'avoir donné la parole.
Merci Jean-Marie Ndabashinze pour cet entretien avec notre invité Léonard Nyangoma. Et c'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.